De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, compte tenu de la situation que l'on connaît tous, l'équipe de Cinérama n'a pas pu se réunir pour vous présenter une émission habituelle. Nous avions déjà changé le sommaire après l'annonce des fermetures des cinémas, notre émission reposant sur l'actualité des salles. Mais la nouvelle disposition contre l'épidémie de coronavirus nous a poussé à imaginer autre chose, d'autant que nous ne pouvions plus nous réunir. Alors le mieux que l'on puisse faire, c'est de parler encore cinéma, parce que le confinement est une situation quasi idéale pour tenter de voir des films qu'on n'a pas encore vus ou de revoir des films qu'on a appréciés. C'est pourquoi, durant cette émission, vous allez écouter non pas des chroniques de films qui sortent sur les écrans vides, mais des chroniques de films à voir en DVD ou en VOD, ou pour les plus téméraires qui auraient gardé un magnétoscope en VHS. Mais pour prendre un peu de distance avec la période actuelle, je me suis dit que le plus simple serait peut-être de parler de films qui mettent en scène la maladie de près ou de loin. C'est d'autant plus à propos que ces films-là ont attiré des spectateurs ces derniers temps. Alors on débute l'émission avec le film le plus remarquable sur le sujet qui nous occupe, Contagion de Steven Soderbergh.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Le film a presque 10 ans et pourtant Contagion de Steven Soderbergh est dans les top 10 des téléchargements sur les plateformes de streaming. Steven Soderbergh pourrait s'en féliciter puisque son film sorti en novembre 2011 n'avait accueilli que 686 000 spectateurs, bien loin du score de Ocean Eleven par exemple, alors que son casting était 4 ou 5 étoiles. Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law, Marion Cotillard et Lawrence Fishburne. Le film qui raconte comment un virus nommé MEV 1 se propage et quelle est la réponse apportée a évidemment des similitudes avec ce que nous vivons. Alors lors de sa sortie, j'en parlais dans ce qui était l'une des premières saisons de Cinérama. On se replonge dans le passé.
This is Cinérama.
Et ça c'est clair.
Rien ne se propage comme la peur, prévient l'affiche de Contagion, dernier film de Steven Soderbergh. Un film catastrophe à gros budget et casting grande classe qui brode un scénario autour d'une épidémie qui touche le monde entier. Quand la crise frappe une partie du monde, est-ce bien divertissant d'aller regarder un film qui nous promet une mort certaine si on ne se lave pas les mains au détergent toutes les 5 minutes, ou si on ne prend pas garde d'éviter les transports en commun là où l'éternuement d'un passager est un mal en puissance? Alors on se souvient sûrement de La Route de John Hillcoat avec Viggo Mortensen tentant de survivre avec son fils dans un monde agonisant, livré à la sauvagerie et au pillage, baigné dans une lumière froide et l'humidité des forêts. On se souvient aussi, dans un tout autre style, de Je suis une légende, où Will Smith doit batailler contre des zombies dans une lumière purement hollywoodienne, où le soleil se partage le beau rôle avec le ciel bleu. Eh bien, Contagion, lui, use d'une sorte de filtre lumineux, froid, bleuté, quasi hospitalier, et d'une mise en scène aride pour nous laisser entrevoir ce monde, le nôtre, avec nos repères. Pas d'anticipation démesurée ici, de tremblement, de zombies ou d'envahisseurs. Le virus est passé d'une chauve-souris au porc, puis à l'homme, et contamine tranquillement l'Homo sapiens, qui fait test sur test pour enrayer le mal.
Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent.
Baisse.
Maman ?
Non, retourne dans ta chambre, chérie.
Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure.
Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess.
Elle a des antécédents ?
Non.
Des allergies ?
Depuis hier soir, on compte 32 cas.
Et là, s'il se trouve qu'elle est morte.
D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler ?
Monsieur Emoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ok.
Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dites-moi ce qui lui est arrivé !
Si quelqu'un a pu trouver le moyen de militariser la grippe aviaire, c'est à ça qu'on va faire face.
Quelqu'un n'aurait pas à militariser la grippe aviaire. Les volatiles s'en chargent.
Alors l'une des forces indéniables de Contagion, c'est de se dérouler sans accroc. Du premier au dernier jour, on se retrouve comme dans un protocole. La recherche de la source, sûrement l'Asie, puisque la première victime est Gwyneth Paltrow. C'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est ça.
De retour de Hong Kong. La mise en place d'un plan de crise par le gouvernement. Alors, faut-il dire la vérité sur la menace ? Quels sont les espoirs de trouver un vaccin ? Comment les gens vont réagir individuellement et collectivement, ça on l'apprendra pendant les 1h45 du film. Si tout se déroule à merveille parce que Soderbergh sait filmer et nous offrir ce petit supplément dans l'image ou dans le montage que n'ont pas tous les blockbusters, le scénario, lui, aurait mérité d'être moins éparpillé façon puzzle. Il y a une multitude de personnages dont finalement on a à peine à s'attacher, celui de Marion Cotillard, membre de l'OMS, à la recherche de la source. On s'en serait bien passé tant l'intrigue est bâclée et le dénouement surprenant. Tout comme le personnage de Jude Law, sorte de fouille-mère de cybernaute et charlatan qui tire parti de la pagaille et permet calmement au cinéma américain de présenter le vaccin comme l'ultime rempart à la maladie, à se demander si le film n'a pas reçu des financements des laboratoires pharmaceutiques, histoire de bien nous mettre dans la tête que le vaccin, malgré les effets secondaires, est la seule solution. Et on a bien vu comment la dernière épidémie de grippe fut une aubaine hein, pour les laboratoires. Alors on peut ajouter à cette liste des personnages inutiles tant qu'on y est celui de Kate Winslet qui va mourir bien vite sans avoir vraiment existé aux yeux du spectateur. Alors si les choses avaient été bien faites, il aurait fallu à Soderbergh deux fois plus de temps. Au lieu de ça, les personnages sont survolés, certaines situations intrigantes sont laissées de côté. Matt Damon qui tente de sauver sa fille de la maladie en l'enfermant est un élément scénaristique sous-exploité. Et finalement, celui qui apparaît le plus à l'écran est sans doute Laurence Fishburne, Monsieur Morpheus, hein, qui est chargé de superviser pour le ministère de la Santé cette épidémie. Mais on reste dans la gestion de la crise qui surligne cet aspect descriptif du film, description qui amène parfois à faire des raccourcis. Les gens entrent bien vite en panique, le vaccin est bien vite expérimenté. On est là dans les artifices du cinéma.
Il y a transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens.
Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez.
Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker.
Ce sera la panique générale.
Approche pas!
Tout va basculer. On cache la vérité au monde.
Détruis tout. Brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent.
Ce n'est pas le moment de paniquer.
Je sais.
Je vais vous ramener chez vous.
Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Cheever. On en a tous.
Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres.
Voilà donc ce que nous en disions à l'époque hein, de ce film Contagion qui vit un regain de popularité en ce moment. Autre film traitant d'une épidémie dont nous avons parlé dans Cinérama dans le passé, c'est Perfect Sense de David Mackenzie avec Ewan McGregor et Eva Green, sorti en mars 2012, et c'est Marine qui nous en parlait.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore, vous êtes la joie de mon cœur.
Plutôt que de faire mourir l'humanité par dégénérescence purulente ou manifestation de bronchite virale, l'épidémie de Perfect Sense va décimer la Terre en privant peu à peu les hommes de leur sens. Alors que les premiers cas de perte d'odorat apparaissent, une épidémiologiste jouée par Eva Green rencontre un cuisinier, Ewan McGregor, et l'amour naissant ne tardera pas à remplacer les sensations qu'ils perdent les unes après les autres.
You're just like all the others. I think it's okay to panic now.
Romantique et anxiogène, le film mixe la peur de l'apocalypse avec les codes des films de contaminés pour amener une histoire d'amour qui sera finalement le centre du propos. Si ce mélange a été considéré comme indigeste par de nombreux critiques, on ne s'étonnera pas en revanche que Lars von Trier soit à la production, sans doute séduit par cette vision très intimiste de la fin du monde éprouvée à travers 2 personnages seulement, comme il l'avait lui-même mis en scène dans Mélancolia. Sans pitié quant à la condition humaine au premier abord, le film se révèle finalement très humaniste, puisque la mystérieuse maladie permettra aux humains d'aller chercher dans leurs ressources comment continuer à vivre sans leur sens. Contrairement à Contagion de Soderbergh, la propagation du virus n'est pas décrite par des mouvements de panique ou des scènes spectaculaires, mais par une simple voix off sur fond d'images d'archives pour donner un point de vue global de la situation. Petite astuce de mise en scène, un peu tirée par les cheveux, mais qui a le mérite de faire économiser quelques millions de dollars. Il y a dans Perfect Sense beaucoup de similitudes aussi avec Blindness de Fernando Méreyès pour sa manière gracieuse et poétique de décrire les répercussions d'une épidémie ainsi que dans la minutie du scénario à rechercher la véracité psychologique. Très inspiré par la sinistrose actuelle, le film est une allégorie très voire trop ambitieuse des crises écologiques et économiques qui font perdre aux humains tout repère. Perfect Sense réussit tout de même à échapper à la prétention de ses ambitions. notamment grâce à ces deux acteurs qui possèdent assez de sensibilité pour rendre vivante cette déchéance physique et faire passer la pilule d'une réalisation un peu chichiteuse. Le fait par ailleurs qu'ils deviennent sourds assez rapidement justifie la rareté des dialogues, ce qui réduit la relation amoureuse à son plus pur aspect charnel, justifiant donc ainsi le titre, puisque The Perfect Sense, le sens parfait, c'est bien évidemment l'amour.
Alors pourquoi parlions-nous de Perfect Sense de David Mackenzie, sorti en 2012 ? Eh bien c'est parce que, vu la situation, nous sommes dans l'incapacité de parler de l'actualité de films qui ne sortent plus et que, de plus, nous sommes dans l'incapacité de réunir l'équipe de Cinérama. C'est pourquoi nous allons nous borner pendant cette période de confinement à rediffuser des chroniques passées. Pour cette première émission spéciale confinement, on met l'accent sur des films qui prennent pour sujet la contagion, la maladie à grande échelle, tout en évitant le mode zombie jugé un peu trop facile. On va maintenant faire une excursion du côté de la comédie, et française. Celle-ci a été un flop, elle est signée Éric Judor, il s'agit de Problemos. On en avait parlé à sa sortie en avril 2017, toute l'équipe avait apprécié cette comédie qui imagine un couple de Parisiens déboulant dans une communauté de néo-babacool isolée alors qu'une pandémie frappe la France. C'est Manu qui nous avait régalé.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
De toute façon, c'est pas la peine de s'exciter. C'est les sommes, il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie. Pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Pain de mie chimique. Attends, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter.
Non, mais Victor déteste Twitter.
Faux, j'ai des Twitter.
C'est clair que c'est chimique, le pain de mie, mais dans ce cas-là, on mange plus rien.
Alors, attends. Pandémie.
Pardon ?
C'est pas pain de mie ? C'est pandémie.
Quoi ?
C'est une putain de pandémie.
Non, c'est pas vrai.
T'es débile toi.
Une pandémie, c'est
elle
une pandémie.
Débile, elle est débile.
Alors il s'agit bien d'un film de fin du monde, mais nous sommes pas chez Roland Emmerich ou dans Walking Dead. Alors, de retour de vacances, Jeanne et Victor font donc une halte pour saluer Jean-Paul, un ami qui vit dans une communauté ex-prof de yoga de Jeanne. Alors Jean-Paul, sorte de gourou sympathique, et ses amis se livrent à une bataille acharnée mais pacifiste pour empêcher la construction d'un parc aquatique. Intrigué, le couple, accompagné de leur petite fille, décide de rester quelque temps sur place jusqu'au jour où tout bascule lorsqu'ils apprennent qu'une pandémie a eu lieu, les laissant alors seuls presque sur Terre à leur triste sort. Enfin, triste sort. Du coup, la communauté se retrouve avec la possibilité de changer réellement le mode de société, de revenir à des valeurs plus saines, de reconstruire un avenir possible. L'utopie peut devenir une réalité. Mais l'humain reste l'humain et rien ne va se passer comme prévu, ou plutôt si, même avec la meilleure volonté du monde, l'homme reproduit les mêmes erreurs. C'est le petit message, on va dire, pessimiste, mais plutôt bon enfant de cette excellente surprise. Alors bienvenue donc chez les zadistes, néologisme pour désigner des militants engagés dans la protection d'une zone à défendre ou zone d'aménagement différé, déclinée sous le nom de ZAD. Auquel on ajoute donc le préfixe « iste ». Là, c'était pour la petite information culturelle.
Précision.
Voilà. Bon, pour simplifier, il s'agit en tout cas de néo-hippies décidant de vivre avant tout en communauté et remettant en cause les fondements même de notre société ultralibérale. Alors, le risque de traiter un tel sujet, même sous la forme d'une comédie potache, est de sombrer dans la caricature et de s'adonner à un petit jeu de massacre sardonique à la limite de la beaufrie. Alors le défi pour Judor, et puis sa scénariste qui est aussi l'une des interprètes du film, dont c'est d'ailleurs la première réalisation sans Ramzi Bedia, était de livrer une comédie délirante, assumant pleinement son caractère régressif, sans tomber dans un discours réac propre à une grosse majorité des comédies made in France traitant de sujets d'actualité. La mission est accomplie en grande partie. La réussite de Problemos tient en premier lieu dans le rôle taillé sur mesure qu'endosse Judor lui-même, celui d'un petit bourgeois cynique et opportuniste, incapable d'être à l'écoute des autres, autocentré et effrayé par le changement. Alors ce personnage, drôle au demeurant, invalide toute idéologie conservatrice envers une certaine frange de la population militante et marginale. Il y a aussi chez Judor une absence d'ego surdimensionné qui fait plaisir, c'est-à-dire qu'il laisse vraiment beaucoup de place aux autres, il est même un peu en retrait, il n'envahit pas du tout l'espace comme le font bon nombre de pseudo-comiques qui passent à la réalisation et qui se mettent en scène et qui, on l'a vu tout au long de...
Danny Boone, tu penses ?
Oui, je pense à Danny Boone et puis à tant d'autres en fait. Mmh. Et même des très bons comme Pierre Richard. Si Pierre Richard, lorsqu'il était réalisateur, c'était lui la vedette de ses films et on le voyait de tous les plans. Alors, face à l'indigence de la production française en matière de gaudrioles, Problemo, sans atteindre l'audace libertaire des récents Apnée ou La Loi de la Jungle, se déguste comme du petit lait et offre un vrai bol d'air frais. Le regard du jus d'or n'est jamais condescendant, mais plutôt bienveillant vis-à-vis de ces 12 illuminés dont il croque aussi avec malice et travers. Il développe un comique de situation loufoque et décalé davantage dans la lignée de sa série Platane que dans ses films antérieurs. La première heure est d'ailleurs un régal d'humour absurde, servi par des dialogues excellents et une pléiade de comédiens inconnus, issus pour la plupart des séries télé, notamment Platane. Alors on retrouve bien sûr quelques archétypes amusants, quoi, comme la fille de Jean-Paul, une écervelée qui pense être dans un jeu de télé-réalité, ou alors la féministe engagée qui évoque le problème des règles, qui évidemment n'est pas un problème.
J'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor ?
Hein ? Bah, j'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise, donc...
Donc tu penses que les règles, ça concerne que les femmes ?
Non, j'ai pas dit ça. Mais effectivement, c'est plus un problème de femmes.
Ah, plutôt... c'est un problème ? Non, alors donc c'est bien que tu restes.
Oui, d'accord. C'est pas donc, ce que je voulais dire. C'est une expression, d'accord.
Je propose qu'on chante.
Ouais. J'aime les règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles, quand elles sont brunes, je les assume.
Justement, je pratique déjà l'évacuation naturelle. Alors, c'est sûr, j'ai encore quelques coulées intempestives, mais j'aborde plus les règles du tout de la même manière.
Bah ouais.
Je me suis mise à les aimer. Je les attends. J'ai même hâte qu'elles arrivent.
C'est joli.
Comme moi pour mes selles.
Alors, c'est pas un extrait pris dans la durée, hein, c'est un petit montage, ça fait partie d'une des bandes annonces, un teaser.
Mais ça donne une bonne idée de ce à quoi ressemble le film, de l'humour en fait. Hein. Et par les temps qui courent, on prend vraiment un réel plaisir à suivre les aventures de cette bande de joyeux pantalons mous, c'est comme ça que moi je les appelle des fois, les néo-hippies, qui malgré tout devront affronter une horde de sauvages, beaucoup moins conciliants qu'eux. Hein. La mise en scène légère et fluide, sans être géniale, est au diapason de cette excellente tranche de rire qui malheureusement s'essouffle un petit peu lors de la dernière demi-heure.
C'est souvent le problème des comédies.
C'est vraiment récurrent. Oui.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
De la contagion, on fait un pas funeste vers la fin du monde et le film apocalyptique. En 2012, j'avais fait un long papier là-dessus sous forme de blind test. Comme mes collègues ne sont pas là pour jouer au blind test, je me suis dit que je pouvais reprendre cette chronique. Donc, j'ai repris le texte, mot pour mot, et les extraits, faute de retrouver la trace de l'émission dans nos archives.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Le film Fin du monde ou Fin d'un monde ou encore Film apocalyptique est un sous-genre du film catastrophe. Le film catastrophe repose sur un événement exceptionnel, naturel ou technologique, comme un incendie, un crash aérien, un virus ou encore l'arrivée d'extraterrestres. Il ne s'agit pas de faire dans le documentaire, il faut donc une histoire et du suspense. Et il faut qu'un groupe d'hommes et de femmes puissent lutter contre les événements et, faute d'y parvenir, nous montrer de beaux sentiments, amour, amitié, foi, relations familiales. Alors commençons par l'un des premiers grands films catastrophes, un indice. Une ville subit des secousses sismiques et est sous la menace d'un événement encore plus dévastateur.
Je vous ai dit de ne pas y toucher. La ville aura certainement besoin de chaque goutte d'eau, il y a déjà des douzaines d'incendies.
Si ce barrage devait se rompre, vous savez bien qu'il ne resterait rien à brûler d'ici à Wilshire Boulevard.
Il s'agit de Tremblement de terre de Mark Robson en 74 avec Charlton Heston et Ava Gardner. Alors il y a eu beaucoup de films sur les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. L'un des plus célèbres est Les derniers jours de Pompéi. Mais la particularité, c'est que ces films ne sont pas forcément des films catastrophes au sens où ça n'est pas l'événement exceptionnel qui prime. L'événement est seulement un prétexte à raconter une toute autre histoire. L'un des moyens les plus simples d'écrire une histoire catastrophe est d'invoquer des cataclysmes naturels qui nous viennent de l'espace. C'est le lot de nombreux films hollywoodiens à partir de la fin des années 90, la qualité des effets spéciaux de l'époque stimulant les producteurs. Alors deux exemples en 98.
Le fait est que des roches et des météorites heurtent fréquemment la Terre, certaines de la taille d'une voiture, d'autres de la taille d'une main. Mais la comète que nous avons découverte est de la taille de New York, du nord de Central Park au sud de Manhattan, soit environ 11 km. Autrement dit, elle est plus grande que le mont Everest.
Une comète de la taille de New York, c'est déjà pas mal, dans Deep Impact. Voyons si on a plus gros.
De quoi s'agit-il ?
C'est un astéroïde.
Quelle est sa taille ?
D'après nos premières estimations, il aurait 90...
Il est grand comme le Texas, monsieur le président.
C'est cela.
Vous êtes en train de me raconter qu'on ne s'y attendait pas ?
Pour les risques spatiaux, notre budget est $1 million. Grâce à cela, on surveille à peine 3% du ciel.
Excusez-moi, monsieur le président, mais le ciel est vaste.
Et les débris de ce matin?
Ce n'était pas grand-chose. Ils étaient gros comme des ballons de basket.
Ou des petites voitures, genre coccinelles.
Et celui-ci, il va nous heurter?
Nous le saurons bientôt, monsieur le président.
Est-ce que vous avez une idée précise du risque?
Le risque? Il est total, monsieur.
Là, c'était évidemment Armageddon. Alors, différence entre les deux, Deep Impact est moins spectaculaire. Armageddon privilégie l'action. Soyons maintenant un peu plus subtils avec un autre film qui détourne les codes du film catastrophe. Alors, il y a un élément catastrophique, mais l'histoire du film se déroule en huis clos, sans lien avec l'extérieur. C'est davantage un questionnement psycho-anthropo-métaphysique auquel on est convié.
Et quand je dis qu'on est seul, on est seul. Il n'y a de la vie que sur la Terre. Et plus pour longtemps.
Je peux rester debout toute la soirée, jusqu'au milieu de la nuit, quand on regardera la planète passer tout près, et comme ça je pourrai la voir passer dans le télescope.
C'était bien sûr Mélancolia de Lars von Trier, qui a été projeté en 2011. Quitte à évoquer les grosses planètes, pourquoi ne pas aller plus loin et supposer que notre Soleil, loin de s'éteindre, hein, comme une bonne chaudière dans plusieurs millions d'années, ne finirait pas par nous cracher ses langues de feu d'un peu plus près? Et profitons-en pour tisser autour de cette catastrophe, hein, une réflexion sur le déterminisme. Est-ce que tout est prévisible?
Tous ces chiffres que tu n'as pas entourés, ils signifient quoi?
Je sais pas encore, peut-être rien, mais ceux qui sont...
Et peut-être que les autres non plus ne veulent rien dire.
Phil, écoute, remettons les choses à plat. Je n'affirme pas que 81 personnes vont mourir demain, ok? J'aimerais juste comprendre pourquoi les dates ont l'air de le prédire.
Oh, d'accord, c'est bizarre, je te l'accorde, c'est même plus que bizarre, mais regarde ces chiffres. Ceux qui ne sont pas entourés sont complètement aléatoires. Je veux dire, la numérologie, la cabale, les pythagoriciens, il y a des tas de systèmes qui font parler les nombres. Il y en a toute une tripotée. Et pourquoi? Parce que les hommes voient ce qu'ils veulent voir dans les nombres.
C'était Prédiction, film de 2009 d'Alex Proyas, un film fourre-tout, hein, qui mêle déterminisme et créationnisme, science et foi, le tout enrobé avec de bons sentiments par l'auteur de Dark City, pas franchement inspiré. Alors on le sait, l'espace a quelque chose d'angoissant, rappelons-nous la phrase de Pascal, hein, le silence de ces espaces infinis m'effraie, mais finalement le silence vaut mieux parfois qu'une visite impromptue d'aliens.
Le public va adorer ça, monsieur le président. Notre seul souci est de savoir si on pirate les nouvelles de 6 heures ou l'heure de grande écoute.
On chiante les médias, il s'agit d'une situation très délicate qui doit demeurer top secret, et l'armée devrait tout de suite prendre les mesures qui s'imposent.
Monsieur le président, c'est une occasion en or.
Général Kessé, est-ce que vous... Vous avez une opinion?
Bien, écoutez, sommes-nous sûrs qu'ils soient hostiles?
Mais comment ça, s'ils sont hostiles? Monsieur le Président, ils encerclent notre planète avec des milliers de vaisseaux de guerre.
Qui nous dit que ce sont des vaisseaux de guerre, monsieur?
Professeur, que savons-nous de ces visiteurs?
Eh bien, technologiquement, ils sont très en avance, ce qui suggérerait, sans aucune équivoque, qu'ils sont pacifiques. Une civilisation qui est si avancée n'est pas, c'est une évidence, du tout barbare. Monsieur le Président... Ceci est un grand jour.
Mars Attack étant la version second degré d'Independence Day de Roland Emmerich, sorti quelque temps auparavant. L'attaque des aliens est propice, hein, pour Hollywood à mettre en avant, eh bien, les valeurs patriotiques. Starship Trooper de Verhoeven s'en amusera. Mais l'attaque d'aliens, c'est aussi l'occasion de souder les liens familiaux.
J'ai de la bouffe et de l'eau pour des semaines. Vous pouvez crécher ici, tous les deux.
Je suis désolé. Il faut que je dorme un peu.
Ces machines, ces tripodes qu'ils ont, ils les avaient enterrés. Juste là, sous nos pieds. Depuis bien avant qu'il y ait des hommes sur Terre. Ils avaient projeté ça depuis des millions d'années. On est battu à plate couture.
Je vous en prie, ma fille. Réfléchissez.
Ils ont vaincu la plus grande puissance du monde en quelques jours. Ils nous ont anéantis. Et c'est juste les premiers dont vont venir. C'est pas une guerre, pas plus qu'il y a de guerre entre les hommes et les vers de terre. C'est une extermination.
C'était évidemment l'excellent La Guerre des Mondes, film de Spielberg avec Tom Cruise en 2005. Quand il s'agit d'invasion d'extraterrestres, on peut aussi citer l'invasion des profanateurs avec 4 versions au fil du temps. Alors, il y a eu beaucoup de déchets quand même, hein. Skyline, les Transformers, World Invasion, Battle Los Angeles, Battleship. Ces films-là coûtent cher à réaliser et peu sortent du lot. On citera quand même Monsters ou encore Cloverfield, film found footage parmi les films les plus réussis. Après les extraterrestres, eh bien pratique et peu anxiogène, passons aux catastrophes sanitaires.
Et donc, en dépit de tous nos efforts, elle n'a pas réagi.
D'accord.
Son cœur s'est arrêté de battre.
Ok.
Il se trouve, hélas, qu'elle est décédée.
D'accord.
Toutes mes condoléances, monsieur Emhoff.
Je sais que ce n'est pas facile à accepter.
D'accord. Et maintenant, je peux aller lui parler?
Monsieur Emhoff, je suis désolé. Votre femme est morte.
Oui, mais enfin, je viens de la voir. On était à la maison.
Y a-t-il quelqu'un que l'on peut contacter? Quelqu'un que vous aimeriez à vos côtés?
On a déjà parlé, hein, l'intérêt de Contagion par rapport à tous les autres films d'attaque virale et qu'il ne fait pas reposer son intrigue sur le spectaculaire. Le virus est intéressant ici pour sa qualité anxiogène. C'est l'organisation d'une réponse médicale et politique qui est abordée. Dans Contagion, la mutation et la transmission du virus est liée aux activités humaines et plus précisément à la recherche de profit. Mais on peut être beaucoup moins subtil. Quand on veut pousser la morale plus loin, on prend une thématique actuelle, le réchauffement climatique. On l'emballe dans un verbiage scientifique et on obtient un scénario congelé.
On a là un rééquilibrage global à l'échelle mondiale. Ce gigantesque ouragan durera entre 7 et 10 jours. Quand il aura pris fin, la glace et la neige recouvriront la quasi-totalité de l'hémisphère nord. La glace et la neige reflèteront la lumière. Et donc l'atmosphère terrestre se restabilisera, mais avec des températures proches de celles de la dernière période glaciaire.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Aller vers le sud, le plus loin possible.
Ce n'est pas du tout amusant, professeur.
D'après vous, il faut aller jusqu'où?
Le plus au sud ils iront, et le mieux ce sera. Le Texas, la partie de la Floride qui n'est pas noyée. Le Mexique, ce serait même l'idéal.
Le Mexique. Restez dans le domaine de la science et laissez la politique aux autres.
On a tenté cette approche. Vous n'avez pas voulu entendre parler la science quand elle pouvait faire la différence.
C'était le jour d'après de Laurent Emmerich. Il arrive que tout soit déjà foutu d'avance et que le moment du film ne soit qu'un sursis. C'est le film d'Apocalypse.
Je m'appelle Robert Neville. Je suis un survivant, je vis à New York. J'émets sur toutes les ondes courtes. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi, quand le soleil est au plus haut dans le ciel.
Je suis une légende, film de 2007 avec Will Smith. Alors il peut s'agir d'un virus, mais aussi d'une fâcheuse destruction nucléaire qui laisse un monde désolé avec des hommes qui luttent contre l'état de nature.
J'aurais dû le faire il y a longtemps, j'aurais dû le faire quand on avait plus que 2 balles. Je sais pas pourquoi je t'ai écouté. Ils vont finir par nous attraper. Ils vont nous tuer. Ils vont me violer. Ils vont violer ton fils. Et ensuite, ils vont nous tuer. Et nous manger.
Non, quoi qu'il arrive.
Arrête.
Je t'ai dit.
Arrête.
Extrait de La Route de John Hillcoat, tiré du roman éponyme écrit par Cormac McCarthy, celui qui est derrière No Country for Old Men. Rien de spectaculaire, hein, juste la description d'un monde avec de nouveaux repères où l'homme est un loup pour l'homme. Alors on n'a cité que des films américains, alors qu'il existe aussi quelques rares productions françaises qui occupent le terrain du film apocalyptique.
Ah oui, c'est bien lui.
Qu'est-ce que tu fais là?
Tous les ministères se sont installés à Toulouse depuis vendredi. J'ai dû suivre le mouvement. Par Mélanie, j'ai su que tu étais en Espagne. J'ai demandé à une collègue de surveiller les listes des réfugiés. Hier soir, ton nom est apparu. C'est étrange, tu te souviens? C'est ici que je venais te chercher, il y a...
Oh, il y a 22 ans.
Tu venais rêvasser au bord de la Garonne après les cours.
Non, je rêvassais pas, j'observais les remous du fleuve pour mon mémoire sur les cyclones.
C'était les derniers jours du monde des frères Larieux, un monde déréglé où la sexualité est exacerbée et où on lutte pour trouver une dernière fois l'amour, même si c'est une illusion. Mais toutes ces catastrophes nucléaires et écologiques n'auraient peut-être pas lieu si on écoutait la parole des extraterrestres.
Je repars bientôt. Et vous m'excuserez si je vous parle crûment. L'univers se rétrécit chaque jour. Et toute menace d'agression de la part d'un groupe, quel qu'il soit, ne peut plus être tolérée. La sécurité doit être pour tous, ou elle n'existe pour personne. Cela n'implique l'abdication d'aucune liberté, sauf la liberté d'agir avec malveillance. Vos ancêtres le savaient bien, puisqu'ils firent des lois pour se gouverner et formèrent une police pour les appliquer. Nous, les habitants des autres planètes, avons accepté ce principe. Nous possédons une organisation pour la protection mutuelle de toutes les planètes et pour l'élimination complète de toute agression.
Voilà un extrait très célèbre de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta, film de 1959. Alors, en imaginant des extraterrestres qui pensent avec les mêmes concepts que nous, eh bien, c'est ce qu'on appelle une pensée anthropomorphique. Alors, on imagine qu'ils viennent nous faire la morale, c'est assez barbant, hein. Voilà sans doute pourquoi, eh bien, au cinéma, on préfère imaginer Alien.
Vous avez fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On se retrouve la semaine prochaine, toujours en confinement, c'est-à-dire en mode on ressort des archives. On vous souhaite de prendre du plaisir à regarder tous les films que vous avez manqués.
This is Cinerama.